écoutez, vous me donnez 2 minutes, je vais voir si je trouve un appariteur pour... Attendez 5 minutes, hein, je reviens. Voilà la bonne réponse, on s'en occupe. On s'en occupe. C'est-à-dire, on va voir s'il y a une autre salle. Alors, je vais commencer dans ces conditions-là, c'est-à-dire sans beaucoup de lumière et sans micro. Alors, au moment de... Au moment de commencer ce nouveau cours, je l'ai déjà dit, je suis très malheureux de voir des personnes debout. J'estime que ça implique un certain bilan entre la gêne et le profit, et que ce bilan est négatif. Je veux dire, ça ne vaut pas la peine que vous restiez debout. Revenez une autre fois, qu'il y ait une sorte de circulation, mais ça m'ennuie beaucoup de vous voir debout de cette façon. C'est très inconfortable. Enfin, faites comme vous voulez. Bon, donc je voulais dire qu'au moment de commencer ce nouveau cours, je voudrais penser à une opposition nietzschéenne qui a été bien mise en valeur est bien mise au jour par Deleuze dans son livre sur Nietzsche. C'est l'opposition entre la méthode et la culture. Dans la perspective nietzschéenne, je le rappelle, la méthode suppose ce que Deleuze appelle une bonne volonté de penseur, une décision préméditée. Et que la méthode, dans ces conditions, est en fait un moyen pour nous éviter d'aller dans tel ou tel lieu, ou pour nous garder la possibilité d'en sortir. C'est le thème du fil dans le labyrinthe. Et effectivement, on peut constater que dans les sciences dites humaines, y compris dans la sémiologie positive, la méthode, et moi-même pendant une certaine phase, une certaine période, j'ai été très, très obsédé par ce mot de méthode. La méthode, c'est, disons, d'abord une démarche vers un but, c'est un protocole d'opération pour obtenir un résultat. Par exemple, une méthode pour déchiffrer, pour expliquer, pour décrire exhaustivement. Et deuxièmement, la méthode, c'est conforme à l'étymologie du mot en grec, ça implique l'idée d'un chemin droit, c'est-à-dire qui veut aller droit à un but. Or, paradoxalement, le chemin droit désigne les lieux où, en fait, le sujet ne veut pas aller. Suivre une méthode, au sens strict du mot, c'est risquer de fétichiser le but comme lieu, et par là, risquer d'écarter les autres lieux. La méthode entrant en quelque sorte au service d'une généralité, d'une moralité, pour reprendre l'équation de Kierkegaard, entre le général et le moral. Le sujet, par exemple, quand il suit la méthode, abdique ce qu'il ne connaît pas de lui-même, il abdique en quelque sorte son irréductible, il abdique sa force et peut-être son inconscient. La culture, au contraire, pour Nietzsche, vous le savez, la culture n'a pas un sens humaniste, un sens, disons, paisible, irénique. La culture, pour Nietzsche, c'est la violence subie par la pensée. C'est une formation de la pensée sous l'action des forces sélectives, un dressage qui met en jeu l'inconscient du penseur. La culture, donc, c'est ce que les Grecs appelaient la païdeia, car les Grecs ne parlaient pas de méthode, ils parlaient de païdeia. Naturellement, les mots de dressage, de force, de violence, il ne faut pas prendre ces mots dans un sens excité. Il ne faut pas confondre la violence au sens nietzschéen et l'excitation au sens actuel. Il faut revenir à l'idée nietzschéenne de force, que ce n'est pas le lieu de reprendre ici, mais de force comme engendrement d'une différence. Je dirais qu'on peut être doux, on peut même être civilisé et se placer tout de même dans la païdeia, dans la violence de la païdeia. Donc la culture comme dressage, c'est-à-dire opposée à la méthode, renvoie pour moi plutôt à l'image d'une sorte, disons, de dispersion, de dispatching, une sorte de tracé excentrique. Ça consiste à tituber entre des bribes, des bornes de savoir ou de saveur, puisque, comme je l'ai dit l'autre jour, savoir et saveur ont la même étymologie en latin. Paradoxalement, la culture ainsi comprise comme reconnaissance de force est évidemment antipathique à l'idée de pouvoir. Le pouvoir est plutôt du côté de la méthode, ou la méthode est du côté du pouvoir. La culture n'est pas, la païdeia n'est pas du côté du pouvoir, et on retrouverait ici un problème typiquement nietzschéen, à savoir que la volonté de puissance doit être distinguée de la volonté de pouvoir. Donc il s'agira du moins d'une façon postulative, il s'agira plutôt de culture, de païdeia, et pas de méthode. Et donc il ne faut rien attendre aujourd'hui, notamment où ce cours commence, il ne faut rien attendre sur la méthode, à moins, disons, de prendre le mot méthode dans son sens malarméen, c'est-à-dire dans le sens de fiction. Le langage réfléchissant sur le langage. Et l'exercice de la culture, à ce moment-là, c'est, si vous voulez, un exercice d'écoute des différences, d'écoute des forces. Or, la première force que je peux interroger et interpeller, c'est celle que je connais de moi, ou en moi, même à travers le leurre de l'imaginaire, c'est la force du désir, ou pour être plus précis, puisqu'il s'agit d'une recherche, la force du fantasme. Dans la leçon inaugurale, vendredi dernier, j'ai demandé qu'on ait le droit de poser à l'origine d'un enseignement de recherche un fantasme, qu'il y ait un droit à l'enseignement fantasmatique, et le droit donc de faire partir chaque année la recherche d'un fantasme. Le fantasme, au sens large du terme, étant considéré comme l'origine de la culture, c'est-à-dire comme engendrement de force de différence. Ceci n'est pas absolument de moi. Les rapports de la science et du fantasme ont été postulé et expliqué par Bachelard, qui a montré l'intrication de la science et de l'imaginaire, notamment au XVIIIe siècle. Seulement, il y a eu, pour finir, une sorte de moralisme bachelardien, la science, pour lui, se constituant par décantation des fantasmes. Alors, je ne veux pas discuter ceci, je dirais simplement que nous admettons, si vous voulez, que nous nous plaçons, en tout cas nous, avant cette décantation, avant que les fantasmes se décantent en science. Alors, avant de dire explicitement mon fantasme originel, qui d'ailleurs n'aura rien d'indécent, un mot sur la force fantasmatique en général. La force fantasmatique de cette expression que j'ai pris pour thème du cours, à savoir le vivre ensemble. Je voudrais faire quelques remarques préalables. Il se trouvera que, en principe, je ne vais pas traiter du phalanstère, sinon épisodiquement, bien qu'il soit évident que le phalanstère est une forme évidemment fantasmatique du vivre ensemble. Je dis tout de même un mot pour expliquer que chez Fourier, il y a eu bien entendu un fantasme très fort du phalanstère, puisque le mot vient de lui. Mais paradoxalement, chez Fourier précisément, le fantasme du phalanstère ne part pas d'une opposition à la solitude ou d'une oppression de la solitude, mais au contraire d'un goût de la solitude. Le vivre ensemble est parti chez Fourier d'un goût de la solitude, il l'a dit lui-même très souvent, « j'aime être seul ». Par conséquent, le fantasme du vivre ensemble n'est pas une contre-négation, ça n'est pas l'endroit d'une frustration qui serait l'envers du fantasme, et les visions heureuses, les visions eudémoniques coexistent sans se contredire. C'est-à-dire que le fantasme, c'est un scénario absolument positif qui met en scène le positif du désir et qui ne connaît que des positifs de désir. Autrement dit, le fantasme n'est pas et n'est jamais dialectique, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle un fantasme. Par conséquent, je dirais que fantasmatiquement, il n'est pas contradictoire de vouloir vivre seul et de vouloir vivre ensemble. Je dirais même que c'est cette non-contradiction qui fera, disons, d'une certaine manière, l'objet du cours. Deuxième remarque, toujours à propos de Fourier, l'utopie, vous le savez, s'enracine toujours dans un certain quotidien. La marque de l'utopie, c'est l'imagination du détail. Les vraies utopies sont des utopies du détail, parce que le détail est précisément un jet fantasmatique. Plus le quotidien du sujet est prégnant sur sa pensée, plus l'utopie est forte, plus elle est fignolée. C'est pour ça qu'on peut dire sans doute que Fourier est meilleur utopiste que Platon. Quel était le quotidien de Fourier, c'est-à-dire ce quotidien dans lequel il a enraciné son utopie? On pourrait dire d'une façon, plutôt deux commentateurs de Fourier l'ont dit d'une façon assez elliptique et un petit peu irrespectueuse. Ces deux commentateurs sont deux anciens commentateurs, Armand et Maublanc, et ils ont été repris par un troisième commentateur, Desroches, qui s'est indigné de cette supposition, qui est la suivante, je cite, « Le phalanstère est un paradis confectionné à son usage personnel par un vieil habitué des tables d'hôtes et des bordels. » Eh bien oui, les tables d'hôtes et les bordels, ou les lieux assimilés, c'est un excellent matériel utopique. Et c'est donc un excellent départ pour fantasmer un certain vivre ensemble de type phalanstérien dans le cas de Fourier. Troisième remarque, disons une sorte de preuve de la force fantasmatique du vivre ensemble, c'est que bien vivre ensemble, c'est-à-dire bien cohabiter, c'est au fond ce qu'il y a de plus fascinant chez les autres. Quand nous rencontrons des autres qui nous paraissent bien cohabiter, nous en sommes facilement fascinés, peut-être même jaloux. Les couples, les groupes, et même, je dirais, les familles réussies, ça fait envie, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est le mythe du vivre ensemble à l'état pur, c'est la bonne matière romanesque. On pourrait dire un peu rapidement qu'il n'y aurait peut-être pas de famille où il ne serait pas si difficile de détruire la famille ne serait pas si résistante s'il n'y en avait pas quelques-unes de réussies. Quatrième remarque, j'ai dit que le fantasme n'est pas le contraire, n'a pas de contraire rationnel, logique, mais à l'intérieur même du fantasme, il peut y avoir, bien entendu, des contre-images, pas, c'est-à-dire des images négatives. Il y a des fantasmes négatifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir opposition entre deux images fantasmatiques, mais deux scénarios, mais pas entre une image et une réalité. Par exemple, je donnerai, à titre d'exemple personnel, que une image, un fantasme négatif du vivre ensemble serait pour moi d'être enfermé pour l'éternité avec des gens déplaisants qui sont à côté de nous au restaurant. Ça serait l'image infernale du vivre ensemble, c'est le thème du huis clos. Enfin, le vivre ensemble négatif, le huis clos. Et un autre fantasme horrible du vivre ensemble, c'est par exemple être orphelin et se retrouver par hasard dans la vie un père vulgaire ou une famille moche. Par exemple, ça existe dans le roman, ce roman pour enfants qui s'appelle Sans famille, pas, sans famille, enfin qui est orphelin, croit retrouver un moment une famille et c'est une famille qui ne lui plaît pas. Et ça, c'est un fantasme très négatif. C'est le thème, bien entendu, psychanalytique du Familienroman, du roman familial. Cinquième remarque, ça sera une certaine digression, une excursion un peu fantaisiste, que je voudrais tout de même, dont je voudrais marquer la case, si vous voulez. En principe, nous prendrons naturellement le vivre ensemble comme un fait essentiellement spatial. Il s'agit de vivre dans un même lieu, c'est ça qui va être exploré. Mais à l'état brut, le vivre ensemble est aussi temporel. Et même si nous n'en traitons pas, il faut au moins marquer cette case. C'est-à-dire, vivre ensemble, ça peut vouloir dire aussi vivre en même temps que, vivre dans le même temps que. C'est le problème de la contemporanéité. Par exemple, je puis dire sans mentir, et j'insiste bien sans mentir, tellement ça paraît, ou en tout cas à moi, ça me paraît surprenant, que Marx, Mallarmé, Nietzsche et Freud ont vécu 27 ans ensemble. Et que bien plus, on aurait pu les réunir, mettons dans quelques villes suisses, en 1876 par exemple, et ils auraient pu, qui est l'ultime indice du vivre ensemble, ils auraient pu en 1876, très raisonnablement, discuter ensemble. Car Freud avait 20 ans, Nietzsche en avait 32, Mallarmé 34 et Marx en avait 56. On pourrait d'ailleurs se demander quel est maintenant le plus vieux. Cette fantaisie de la concomitance, eh bien je la fais pour alerter sur un phénomène très complexe et qui est peu étudié, me semble-t-il, qui est précisément la contemporanéité. De qui suis-je le contemporain? Avec qui est-ce que je vis? Eh bien, le calendrier ne répond pas bien. Et c'est ce qu'indique notre petit jeu chronologique que je viens de faire, à moins, bien entendu, que ces quatre penseurs que j'ai cités ne deviennent contemporains que maintenant. Et c'est ça l'intérêt, précisément, de la réflexion. Autrement dit, il faudrait étudier, peut-être, les effets de sens chronologique. Comme il y a des illusions d'optique, il y a des illusions de temporalité, et on déboucherait peut-être sur ce paradoxe qu'il y aurait un rapport insoupçonné entre le contemporain et l'intempestif, justement, au sens nietzschéen du terme. Et que la rencontre de Marx et de Mallarmé, ou de Mallarmé et de Freud, pour parodier l'image célèbre des surréalistes sur la table du temps, est une image tout à fait incongrue. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Voilà, j'en viens maintenant à mon fantasme. Bon, j'appelle fantasme quelque chose qui n'a pas dans mon vocabulaire une très grande rigueur psychanalytique. Elle l'aurait si je suivais à la lettre la définition qui est donnée par Laplanche et Pontalis. un fantasme, j'appelle ainsi un retour de désir, d'image, qui rôde, qui se cherche en vous, parfois toute une vie, et souvent ne cristallise qu'à travers un mot, qui est le mot signifiant majeur, et qui, à partir de ce mot, quand on l'a trouvé, on induit du fantasme à son exploration, à son exploitation par différentes bribes de savoir. Et ça, ça s'appelle la recherche. Un fantasme, ça s'exploite un peu comme une mine à ciel ouvert. Alors, pour moi, le fantasme qui se cherchait, je le dis pour ceux d'entre vous qui ont peut-être suivi les derniers séminaires de l'École des hautes études, le fantasme qui se cherche à travers l'expression « comment vivre ensemble », ça n'est pas du tout un fantasme qui est lié au sujet de ces dernières années, à savoir le discours amoureux. Il ne faut pas croire qu'après avoir traité du discours amoureux, je vais traiter, par exemple, du discours conjugal. Les amoureux mis en scène pendant 2 ans, s'étant rejoints, conjoints, et cela formant le vivre ensemble. Ça n'a absolument qu'une espèce de rapport. D'ailleurs, le discours amoureux, le séminaire sur le discours amoureux, n'était pas du tout l'exploitation d'un fantasme. L'origine de la recherche était toute différente. Alors, tandis qu'ici, il s'agit d'un fantasme sur le vivre ensemble. Ici, ce qui est visé, tout au moins à partir du fantasme, ça n'est pas du tout le vivre à deux, ça n'est pas le discours simili-conjugal qui succéderait par miracle au discours amoureux. C'est un fantasme de vie, entre guillemets, de régime, de genre de vie. Or, malheureusement, en France, nous n'avons pas de mot, n'est-ce pas, qui... Nous disons la vie, mais pour désigner le genre de vie, nous n'avons pas de mot spécifique. Il y en avait un, naturellement, en grec, et d'ailleurs, nous emploierons pas mal de mots grecs dans ce séminaire. C'était la diaïta. Je ne sais jamais comment ça s'accentue. La diaïta qui a donné en français le mot diète est dans un sens beaucoup trop particulier. La diète, c'est le régime de vie, le genre de vie. Et alors, ce qui est fantasmé à l'origine, c'est donc une diaïta qui n'est ni duel, ni à deux, ni pluriel, ni collective. Quelque chose comme une solitude interrompue d'une façon réglée. Et ça, c'est le paradoxe, c'est la contradiction, c'est la porie. Bon, il faudrait... Vous voulez aller prévenir Je vais commencer à regretter l'École des hautes études. Mais oui, on y est allé, je crois, n'est-ce pas? Bien. Donc, je disais que la porie, la contradiction, c'était celle, disons, d'une mise en commun des distances. Autrement dit, l'utopie de ce que j'appellerais un socialisme des distances. Un socialisme des distances, puisque Nietzsche parlait pour les époques fortes, les époques non grégaires, d'un pathos des distances. D'un pathos des distances, comme par exemple à la Renaissance. Or, donc, ce fantasme que je recherche, je l'ai éprouvé, ou je l'ai senti à l'occasion d'une lecture fortuite que j'ai faite il y a quelques mois. C'était un livre de La Carrière qui s'appelle L'été grec. et j'ai rencontré le mot qui a fait travailler le fantasme. Ce livre, entre autres, parle du mont Athos et il explique que sur le mont Athos, il y a encore aujourd'hui des couvents cénobitiques, c'est-à-dire des couvents où tous les moines vivent ensemble dans un même monastère, dans un même bâtiment. Et puis, il y a des moines qui sont à la fois isolés et reliés à l'intérieur d'une certaine structure, structure que j'essaierai de décrire peu à peu. Et ces moines isolés qui sont tout de même reliés forment des agglomérats idiorythmiques. I-D-I-O, 2-R-Y-T-H-N-I, idiorythmique. C'est-à-dire que chaque sujet, chaque moine, y a son rythme propre de vie. Il faut 2-R à idiorythmique, je ne sais pas très bien pourquoi, sans doute parce qu'il y a une assimilation de l'S de idios avec le R de rythmique. Alors, il faut bien comprendre que pour qu'il y ait fantasme, n'est-ce pas, alors là, au sens très précis du mot, il faut qu'il y ait scène, il faut qu'il y ait scénario. Donc, il faut qu'il y ait un lieu. Ce lieu, ça a été pour moi l'Athos, le mont Athos, où je ne suis jamais allé, où sans doute je n'irai jamais, où je serai sans doute aussi très déçu d'aller. Mais l'Athos m'a procuré une scène. Un mixte d'images avec un peu de Méditerranée, une terrasse, la montagne, et bien entendu, dans le fantasme, on oblitère ce qui vous gêne et qui est probablement là, la crasse et la foi aussi. Au fond, le scénario, c'est évidemment un paysage. Eh bien, je me voyais là, au bord d'une terrasse, la mer au loin, disposant de deux chambres à moi et autant pour quelques amis non loin, plus peut-être une occasion de réunion comme une bibliothèque. C'était là un fantasme très pur qui, bien entendu, fait abstraction des difficultés qui vont se lever comme des fantômes. Et ceci, ces difficultés, ce sera un peu le sujet du cours. Donc, idiorythmie, idiorythmique, a été le mot qui a transmuté le fantasme en chant de savoir. Par ce mot, j'accédais à des choses qui peuvent être apprises. C'est ça qui est important. Si on laisse le fantasme à l'état pur, il n'y a rien à en apprendre, il n'y a qu'à le répéter. Mais à partir du moment où le fantasme rencontre un mot, un nom, à ce moment-là, on peut explorer le nom, on peut mettre en branle un certain apprentissage. Et ça ne veut pas dire que ces choses, j'ai pu les apprendre, car bibliographiquement, mes recherches ont été souvent décevantes. Et, par exemple, j'ai pensé que j'allais apprendre beaucoup de choses sur les formes même religieuses, disons, de l'idiorythmie. Par exemple, les béguinages, les solitaires de Port-Royal, les petites communautés, et en fait je n'ai pas appris grand chose de ce côté-là, et d'ailleurs je vais revenir aussi un peu plus tard sur cette dominance du modèle religieux dans l'idiorythmie. Donc, ce qui m'importe pour le moment aussi, c'est que, ah oui, je voulais vous dire ceci, vous rappeler ceci, c'est que dans idiorythmie, n'est-ce pas, il y a rythme. Alors je voudrais faire un petit excursus, rappeler l'article important de Benveniste sur la notion de rythme, qui a paru dans le premier tome des problèmes de linguistique générale, chapitre 27, car, en tout cas, c'est une démonstration merveilleuse de la force des analyses de Benveniste. Vous savez qu'en grec, rythmos, rythmos, on le rattache au verbe rein, qui veut dire couler. Et pendant très longtemps, on a donné une espèce de trajet sémantique que Benveniste justement s'est employé à démystifier, on a dit le rythme, ça vient de l'image des flots. Des flots. La mer est rythmée ou les fleuves sont rythmés. Et donc c'est pour ça que le rythme vient de l'idée de couler. Mouvement régulier des flots. Or, d'après Benveniste, l'histoire du mot est toute différente. L'origine de rhythmos, on doit la chercher dans l'ancienne philosophie ionienne, celle de Démocrite, c'est-à-dire la philosophie des créateurs de l'atomisme. C'est un mot technique de la doctrine des ioniens. Et jusqu'à la période attique, dit Benveniste, rhythmos ne signifie jamais rythme et n'est jamais appliqué au mouvement régulier des flots. Le sens de rhythmos jusqu'à la période attique, c'est forme distinctive, figure proportionnée, disposition. C'est à la fois très proche et très différent d'un autre mot grec qui est schéma, nous avons tiré schéma, schéma qui veut dire forme fixe, réalisée, posée comme un objet. Par exemple, le schéma renvoie à la pose d'une statue, au geste figé d'un orateur ou à la figure de danse du chœur dans la tragédie. Et justement, rhythmos s'oppose à schéma, qui est une figure fixe, objectivée, réifiée, parce que rhythmos, c'est la forme, mais dans l'instant, qu'elle est assumée par quelque chose de mouvant, de mobile, de fluide. C'est la forme de ce qui n'a pas de consistance organique. C'est la forme passagère d'un élément fluide ou assimilé à l'eau. Par exemple, on peut parler du rhythmos d'un péplos, d'un vêtement, hein, parce que les plis, c'est une forme passagère qui vont se défaire. Ou bien on peut parler de rhythmos à propos des humeurs, de l'humeur de quelqu'un, de la bonne et la mauvaise humeur, ça c'est un rhythmos. C'est donc une forme improvisée et modifiable, et dans la doctrine des atomistes ioniens, eh bien, c'était, si vous voulez, rhythmos, c'était la manière particulière pour les atomes de fluer, c'est-à-dire de changer de combinaison. C'était des configurations sans fixité ni nécessité naturelle. C'était un flûment, en quelque sorte. Rhythmos, c'est un flûment d'atomes. Et par conséquent, le sens musical, c'est-à-dire le sens moderne de rythme, est postérieur à cette doctrine, puisqu'il n'apparaît que dans Platon, justement. Alors, ce souvenir étymologique, moi, m'importe, et bien entendu, pourquoi ? Parce que je dirais que idiorhythme et idiorhythmique, à ce moment-là, si nous retenons cette origine du mot rythme, rhythmos, c'est presque un pléonasme. Car le rhythmos est en quelque sorte, par définition, individuel. C'est la façon dont le sujet se place d'une façon interstitielle, fugitive, dans le code social ou dans le code naturel. Et aussi, rhythmos renvoie aux formes subtiles du genre de vie. Les humeurs, les configurations non stables, les passages dépressifs ou exaltés, bref, le contraire même d'une cadence cassante, implacable de régularité, que nous entendons d'ordinaire par le mot rythme. Et au fond, c'est parce que ce rythme a pris un sens répressif, il suffit de penser au rythme de la vie d'un moine conventuel, d'un cénobite ou d'un phalanstérien, n'est-ce pas, qui doivent vivre à un quart d'heure près, que précisément on a été obligé de corriger le mot de rythmos, de rythme, par idiorhythme. On a été obligé de surenchérir, alors que normalement le rythme devait renvoyer à une valeur positive d'une extrême souplesse. Mais pour connoter cette souplesse, on a dû indiquer que le rythme devait devenir individuel, idios. Autrement dit, idios s'oppose à rythme, mais c'est la même chose que rhythmos, en quelque sorte. Voilà ce que je voulais dire sur rythme. Alors, j'indique aussi que dans son lieu originel, à savoir l'athos, le mot athos, l'idiorhythmie vise juste la proportion de communauté fantasmée. Et c'est là son avantage, c'est là l'avantage de l'expression idiorythmie, sa force motrice pour moi. Et les questions de proportion ont une importance, je dirais, ontologique, n'est-ce pas ? Ça fait partie de l'être d'un objet. La proportion d'un objet fait partie de son être. Ce n'est pas simplement un attribut, ça fait partie de l'être de l'objet. Il y a pu y avoir toute une théorie de l'architecture comme définissant l'objet propre de l'architecture comme étant la proportion. Hein? Et nous savons tous très bien que, par exemple, si nous agrandissons le détail d'un tableau, d'une peinture, nous produisons une toute autre peinture. Hein? On a pu dire, je l'ai répété plusieurs fois, que tout Nicolas de Staël, par exemple, était sorti de 5 cm carrés de Cézanne. Donc la proportion a une valeur absolument fondatrice. Et par conséquent, nous poser le problème de la proportion, c'est poser vraiment le problème dans son cœur. Alors, le fantasme, eh bien, c'est une sorte de projecteur net et puissant, très sûr, qui découpe la scène éclairée où le désir s'installe et laisse dans l'ombre les deux côtés de la scène. C'est pas le fantasme découpe une scène idiorythmique, de coloration un peu carte postale, enfin, puisque ça se place sur une terrasse de l'Athos, mais ça laisse dans l'ombre des deux côtés d'autres formes de vivre ensemble. D'un côté, ça laisse dans l'ombre le couple. Naturellement, peut-être il y a des couples idiorythmiques, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est possible. S'il est possible de concilier l'idiorythmie et la vie en couple, mais le problème n'est pas là. Ça veut dire que le fantasme ne touche pas au lieu du couple, qu'il ne veut pas voir, le fantasme ne veut pas voir l'immuable chambre à coucher, la clôture, la légalité. Et l'appartement centré sur la chambre à coucher ne peut pas être idiorythmique. Naturellement, on pourrait décider, d'ailleurs, de ne pas parler du couple, ou alors du couple, j'en parlerai un peu quand il sera pris dans des ensembles, dans des extérieurs. On pourrait donc, à l'avance, décider de ne pas parler du vivre ensemble du couple, un peu comme la société de linguistique, quand elle s'est créée au siècle dernier, elle avait décidé, dans ses statuts mêmes, qu'elle ne recevrait aucune communication sur l'origine du langage. On pourrait aussi prendre une décision méthodique de ce genre quant au couple. Et il faudrait ajouter d'ailleurs tout de suite qu'il est probable que le système famille bloque toute expérience d'anachorèse, c'est-à-dire de tendance à l'idiorythmie, et que dans les communes modernes, les familles se reconstituent, en général immanquablement, et que c'est précisément le moment où la commune déraille. Alors, ça c'est ce qui est laissé dans l'ombre d'un côté. Mais de l'autre côté, à l'autre extrémité de la scène, le fantasme aussi laisse dans l'ombre les macro-groupements, les grandes communes, les phalanstères, les couvents, le cénobitisme, c'est-à-dire la vie en commun dans les monastères. Pourquoi ? Je veux dire, pourquoi est-ce que le fantasme ne rencontre pas ces grandes formes ? Eh bien, c'est évident, c'est parce que ces grandes formes de communauté sont structurées selon une architecture de pouvoir et qu'elles sont déclarativement hostiles à l'idiorythmie. On pourrait même dire, en forçant un peu les choses, que c'est contre l'idiorythmie qu'historiquement les monastères, le fait monastique, le fait conventuel s'est constitué, nous allons le voir, contre l'idiorythmie. L'idiorythmie, c'est ce qui a été toujours marginalisé, censuré, pourchassé, et peu à peu exténué par les structures conventuelles fortes. Religieux, de voir l'inhumanité foncière du phalanstère fourriériste, c'est pas, qui est l'opposé même de l'idiorythmie, avec son timing de quart d'heure en quart d'heure, c'est, on l'a dit bien souvent, une caserne, un internat. Alors ce sont ces deux zones qui sont laissées dans l'ombre. On pourrait dire d'une autre façon que ce que le fantasme cherche à éclairer, c'est une zone entre deux formes excessives. une forme excessive négative qui est la solitude, avec sa version religieuse, l'érémitisme, la situation des ermites, et de l'autre côté, une forme excessive intégrative qui est le cénobium, n'est-ce pas, c'est-à-dire en grec koinos veut dire en commun, qui est tout ce qui a trait au monastère et au couvent, la vie en commun. Et au milieu, il y a une forme médiane, utopique, édénique, idyllique, qui est l'idiorythmie. Et encore une fois, cette forme est très excentrique socialement. Elle n'a jamais bien pris dans l'Église, qui en fait l'a toujours combattue. Par exemple, Saint Benoît s'est déchaîné contre des moines qu'il appelait les sarabaïtes, qui étaient des moines qui vivaient à deux ou trois ensemble et qui étaient accusés dès lors de satisfaire tous leurs désirs, ce qui était très mal vu par Saint Benoît, on peut s'en douter. Et au mont Athos, vous le savez, l'idiorythmie, le mont Athos lui-même est en complète déperdition et déshérence, mais dans cette déshérence, il y en a une encore plus rapide et plus radicale, qui est la déshérence, justement, de l'idiorythmie, n'est-ce pas ? L'idiorythmie meurt. Et d'autre part, on pourrait faire remarquer que, par exemple, la psychanalyse n'a, semble-t-il, très peu mordu sur les petits groupes, ce qu'on appelle les petits groupes. Ce qui intéresse l'analyse, c'est ou bien le sujet dans sa gang familiale, ou bien la foule, dans certains écrits de Freud. Et sur les petits groupes, je ne connais, mais peut-être y a-t-il autre chose, que le livre de Bion, un anglais, je crois, prénommé, enfin, avec les initiales WR, Bion. Ça a été traduit en français aux presses universitaires en 65, ça s'appelle « Recherche sur les petits groupes ». Mais c'est un livre assez particulier parce qu'il porte sur des petits groupes en milieu hospitalier et que, d'une manière générale, le livre est très intéressant, mais il n'est pas très clair. Alors, pour en finir avec cette première présentation de l'idiorythmie, je vais donner un trait qui n'est pas un trait de vivre ensemble, à proprement parler, qui me paraît caractériser le problème d'une façon très topique. Un jour, il y a un peu plus d'un mois, peu importe, d'ailleurs vous allez voir, c'est un fait absolument futile qui peut se produire tous les jours, de ma fenêtre, j'ai vu dans la rue une mère qui tenait son gosse par la main et qui poussait la poussette vide devant elle. Et cette mère allait imperturbablement à son pas, ce qui avait pour effet que le gosse était tiré, cahoté, contraint de courir tout le temps comme un animal tenu en laisse ou comme une victime sadienne qu'on fouette. C'est-à-dire que la mère allait à son rythme sans savoir que le rythme du gosse est tout autre. Et pourtant, c'était sa mère. C'est-à-dire que sa mère pourvue là d'un pouvoir qui s'exerçait sur l'enfant. Et je dirais que la subtilité du pouvoir passe souvent justement par la dysrythmie, par l'hétérorythmie. C'est en mettant ensemble deux rythmes différents qu'on crée des profondes disturbances. J'ai encore le temps de vous parler du prochain paragraphe prévu, en tout cas du début. Ce sont des remarques sur le monachisme, sur les moines. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les forces par lesquelles le fantasme accède à ou débouche sur la culture, sur la païdéia, ces forces-là n'agissent pas d'une façon droite. Elles subissent des torsions imprévisibles. Par exemple, justement dans le cas de mon propre travail, un fantasme de vie libre à quelques-uns a engendré une recherche sur l'idiorythmie et m'a orienté par conséquent vers, ou le hasard m'a mis en présence d'un phénomène religieux qui se passe sur le mont Athos. Mais en fait, je croyais toujours, en explorant un peu l'idiorythmie religieuse, trouver ou retrouver des thèmes, des traits, des structures qui me permettent d'éclaircir des problèmes absolument contemporains et personnels, qui sont des problèmes qui ne sont pas du tout ceux d'un moine grec, n'est-ce pas, de l'Athos. Non pas des problèmes généraux, culturels et sociologiques, par exemple le problème des communautés ou des communes, mais un problème véritablement idiolectal, c'est-à-dire comment réfléchir à partir de ce thème de l'idiorythmie sur ce que je vois autour de moi, chez mes amis, sur ce qui se postule en moi. Et donc on pouvait penser que j'allais plutôt essayer de trouver la voie d'une sorte de, il faut bien le dire, de psychologie, même s'il avait dû être très psychanalytique, d'une psychologie passionnelle, le rapport aux autres, le rapport à l'autre. Or, en fait, ici, il y a eu, dans mon travail, une déviation imprévisible. Le cristallisateur, ça a été l'Athos, ça a entraîné des lectures, il y a eu des tâtonnements aussi à travers des romans, mais ces lectures, finalement, se sont avérées, ces lectures sur les moines en particulier, se sont avérées passionnantes sans que je puisse savoir alors quel fantasme elles touchaient. C'était sûrement un fantasme, mais ça n'était pas insignifié parce que je n'ai jamais surpris en moi la moindre velléité de conversion à la spiritualité monacale. Hein. Donc déjà, dans la recherche elle-même, il y avait un investissement qui était déjà déséquilibré vers le matériel monastique. Et puis il y a eu de nouveau encore une torsion, ce sont des zigzags. Le fantasme, visiblement, dont je viens de parler, répugne au cénobitisme, c'est-à-dire à la vie conventuelle, au paysage qu'offre la vie conventuelle. Et par conséquent, l'exploration de lecture, l'exploration de savoir, s'est détournée du cénobitisme, et notamment du cénobitisme occidental, de modèle bénédictin, et il s'est intéressé bien davantage aux formes pré-cénobitiques, c'est-à-dire aux formes ou bien érémitiques des ermites, ou bien semi-anachorétiques, c'est-à-dire que quand quelques ermites vivent en ermite, mais pas très loin les uns des autres, c'est-à-dire en état précisément dans une structure idiorythmique. Et par là même, j'ai été amené à m'intéresser, bien sûr comme un amateur, tout de même assez vivement, au monachisme oriental et pas du tout au monachisme occidental, c'est-à-dire ce monachisme oriental qui a fleuri en Égypte et dans l'Empire byzantin. Alors je voudrais à ce sujet, une fois pour toutes si vous le permettez, parce que j'ai peur ensuite que nous ayons à manier ces notions sans très bien savoir à quels événements elles se rapportent, je voudrais peut-être finir là-dessus, vous donner non pas un tableau, mais disons, si vous le permettez, imprimer tout de même quelques dates, quelques repères chronologiques dans votre esprit. Moi j'ai fait ça sous forme d'un tableau, mais enfin, faites ça comme vous voulez. Alors, disons qu'ici, vous pouvez mettre des événements historiques, ici, des dates ou des périodes, ici, des individualités, n'est-ce pas ? Ce sont des repères, simplement, et ici, des formes institutionnelles. Alors, je n'ai pas le temps de remplir moi-même, vous le faites, je vous le dis. Donc dans la première ligne, disons dans les événements, tout ça c'est pour situer bien, vous allez voir, je crois que ça a une certaine importance. Dioclétien, empereur persécuteur des chrétiens, ça correspond à la fin du 3e siècle, c'est-à-dire environ 275 après Jésus-Christ à 300-305, c'est le moment, dans les individualités, où Antoine, Saint Antoine, est au désert. Hein? C'est le moment antonien. Et l'institution qui correspond, c'est l'érémitisme pur, l'ermite. Ensuite, dans seconde ligne, nous avons la conversion de Constantin, vers 313, c'est-à-dire le début du IVe siècle, et là nous trouvons des anachorètes qui se groupent plus ou moins autour d'Antoine sur le Sinaï. Alors nous trouvons au niveau institutionnel ce que j'appelle un semi-anachorétisme. Ce ne sont pas des anachorètes purs, ils ne sont pas très loin les uns des autres, ils se rencontrent peut-être une fois par semaine, n'est-ce pas ? Et c'est donc là qu'on trouve la première image, et peut-être la meilleure, de l'idiorythmie. Ensuite, en 314, toujours au début du IVe siècle, il y a ce phénomène extrêmement important, c'est qu'un saint égyptien, Pacôme, P-A-C-H-O-M-E, inaugure, disons, le premier couvent. Il inaugure le cénobitisme. Il crée un couvent de moines. Alors ensuite, on arrive aux dates capitales. Le christianisme, vous le savez, devient religion d'État par l'édit de Théodose en 380, donc fin du IVe siècle. Et à la mort de Théodose, il y a un partage de l'Orient et de l'Occident en 395. Donc la fin du IVe siècle, c'est ça qui est très important. C'est ce qui correspond à la conversion de saint Augustin et aussi donc à la production de ce qu'on appelle la règle de saint Augustin, même si ce n'est pas saint Augustin lui-même qui l'a rédigé en forme de règle, mais c'est un texte, un document qui va animer pendant des siècles et des siècles la vie conventuelle. Ensuite, bien sûr, au 5e siècle, je le mentionne parce que nous allons en trouver quelques-uns, il y a ce phénomène très étrange et très passionnant des stylites, les stylites, les anachorètes qui étaient perchés sur une colonne toute leur vie. Au 6e siècle, alors, nous passons en Occident, mais nous n'allons pas suivre cette voie occidentale qui ne nous intéresse guère, c'est saint Benoît qui, sur le mont Cassin, fonde le premier monastère, enfin le monastère exemplaire, le monastère bénédictin, et qui donne le départ du cénobitisme occidental. Enfin, ça ne fait pas vraiment partie du tableau, mais puisque j'ai parlé du mont Athos, je rappelle que le mont Athos existe depuis le Xe siècle. C'est la date, la fondation du premier monastère sur le mont Athos, et il y a quelques années la célébration du millénaire du mont Athos, ce qui a donné lieu à un beau livre de mélange d'études sur le mont Athos qui existe là, sous cette salle, dans le cabinet d'études byzantines. Voilà, je dis simplement encore une remarque et puis je m'arrêterai. Vous voyez, si j'ai donné ce tableau, je crois qu'il est utile, enfin je parle toujours par rapport à ma propre culture et aux lacunes de ma culture. Je ne m'étais pas bien rendu compte jusque-là que tout s'est joué au fond au IVe siècle et que cette date entraîne au moins un effet de sens impressionnant, c'est-à-dire que le cénobitisme, l'organisation de la vie en commun dans des monastères, comme liquidation de l'anachorétisme, c'est-à-dire des ermites et de l'idiorythmie, considérés comme des marginalités dangereuses qui résistaient à l'intégration dans une structure de pouvoir, eh bien le cénobitisme est en fait strictement contemporain du renversement qui a fait passer le christianisme de religion par persécutée, c'est-à-dire de religion des martyrs, au statut de religion d'État. C'est-à-dire qui a fait passer le christianisme de non-pouvoir ou des pouvoirs au pouvoir. S'il y avait un jeu télévisuel où on me demande, ce qui n'arrivera jamais, quelle est pour moi la date la plus importante de l'ère chrétienne, eh bien je répondrai bravement, c'est 380, c'est la date de l'édit de Théodose, c'est la date où la religion chrétienne de persécuter est devenue religion d'État, et où il y a eu par conséquent une bascule énorme aux conséquences qui durent encore de la religion chrétienne du côté du pouvoir. Et ceci, je le répète, étant lié à l'instauration de la vie cénobitique, de la vie conventuelle. Voilà. La suite à mercredi prochain.